Première partie. Émergence. Chapitre 1. 6 mois plus tard. La tronçonneuse se mit à rugir, et les dents de sa chaîne mordirent le tronc du chêne en projetant des esquilles de bois comme un geyser de sang. C'était beaucoup trop pénible à regarder et bruyant pour que Zoé reste là. Elle rentra dans la maison et le son devint à peine un feulement lorsque la lourde porte se referma. Elles avaient pourtant essayé de le faire repartir. Ça leur avait coûté un bras de louer une mini-pelleteuse, alors que les engins de ce genre étaient mobilisés pour la reconstruction du pays, juste pour replanter leur chaîne adorée dans son trou d'origine. Mais rien n'y avait fait. Pas même Romy, qui venait lui parler le soir, une caresse en prime. L'arbre était mort, et il fallait se résoudre à l'enlever avant qu'il ne devienne un danger pour la maison lors de la prochaine tempête. Sans lui, l'entrée dans le jardin ne serait plus pareille. Il manquerait. Il était l'unique être vivant qui avait vu le secteur évoluer depuis plus d'un siècle. Zoé devait retourner bosser. Ça lui occuperait l'esprit. Sinon, elle allait déprimer. Peut-être qu'elle mettait beaucoup trop d'affect dans cet arbre. Elle alluma la bouilloire et se prépara un thé matcha avant de monter au deuxième étage dans son bureau. Celui-ci occupait une grande pièce mansardée qui donnait sur le petit lac en contrebas. Zoé travaillait sur un modeste secrétaire ancien, sur lequel était posé son ordinateur portable, un carnet de notes avec stylo et une lampe. Rien d'autre. Elle avait besoin de dépouillement pour s'étaler mentalement. Mais la vue était inspirante. C'était le moins qu'on puisse dire. Le lac. Et surtout les arbres au-delà, ainsi que quelques toits pointus qui en dépassaient ça et là. Le paysage avait un peu changé après la dernière tempête, la grade 4 d'avril. Bien qu'assez étonnamment, la nature soit vite repartie avec le printemps, et la plupart des arbres de la région avaient tenu. « Sauf mon chêne », se morfondit-elle en pivotant sur le siège tournant. Derrière elle, Zoé avait fait installer un sofa pour bouquiner, et elle avait rempli les étagères avec ses livres préférés. Elle avait toujours aimé lire. C'était sa détente. Son évasion pendant l'adolescence, son médicament pour s'endormir le soir, son palliatif pour supporter les rames bondées du RER lorsqu'elle partait travailler. La lecture lui avait ouvert beaucoup de portes. Pas seulement celle de l'imagination, de la culture ou des émotions. Elle avait également perfectionné son anglais en s'immergeant dans G.R.R. Martin ou Stephen King dans leur langue natale, et ensuite sa connaissance des marchés pop, fantastique, fantasy, science-fiction, qui lui venait de là. Elle avait trouvé sa voie professionnelle par ce biais. Pour une fille qui avait abandonné ses études après les confinements Covid de 2020 et 2021, elle s'en était plutôt bien sortie. Chargée des ventes internationales d'un groupe de production audiovisuelle, dont l'essentiel consistait en des séries, des animes et parfois quelques unitaires de genre. C'était la marque de fabrique de la maison, la culture pop, comme on appelait encore ça, même si ça commençait à sonner franchement désuet. Le style avait eu son heure de gloire dans les premières décennies du siècle, s'étirant jusqu'à aujourd'hui pour devenir limite ringard, une mode parmi d'autres, qui reviendrait un jour. Suffisait d'être patient. Zoé était loin des plateaux de tournage et des stars qui faisaient rêver à la télévision. Elle, son job, c'était de refourguer ce qu'il produisait au marché étranger et pour le prix le plus élevé possible. Des gros montants en jeu, même pour un univers en déclin. Responsabilité et salaire pas honteux, loin de là. Surtout pour une nana qui n'avait aucun diplôme. Juste un anglais soigné, une véritable connaissance du marché et pas sa langue dans sa poche. Merci, entre autres, à ses lectures. Ça, c'était sa première vie. Ensuite, il y avait eu son mariage qui s'était transformé en quasi-divorce. Une désillusion de plus. Et pour finir, le cancer d'Erwan. La claque finale. Du genre à tout remettre en question. Se poser les bonnes en tout cas. Les vraies, celles qui dérangent. Suis-je heureuse? Ai-je fait les bons choix parmi ceux sur lesquels je peux encore avoir un impact? De quoi ai-je réellement besoin pour être épanouie? Pendant un an, Zoé avait tourné autour de ces questions. Le temps aussi que le deuil se fasse, qu'elle soit capable de s'ouvrir à une suite éventuelle. Ce n'était même pas une histoire de sentiments, encore moins de cul. Là-dessus, Zoé n'éprouvait pas de manque à ce moment-là. Seulement une question de timing. Que la peine, la désillusion et l'amertume retombent, se sédimentent pour que son horizon ne soit plus brouillé par une perception mal étalonnée. Et puis, il y avait leur fille. C'était elle la priorité à cette période. 14 mois très exactement après l'enterrement d'Erwan, Zoé se sentait prête pour autre chose. Elle ignorait quoi. Donc elle s'inscrivit à un cours de salsa qu'elle abandonna presque aussi vite. Trop de contacts physiques avec des inconnus à son goût. Elle prit des cours de cuisine. Mais là encore, c'est ça. Trop gourmande pour ne pas goûter en permanence. Elle dut faire un choix entre la balance de sa salle de bain et celle de la cuisine. Enfin, elle s'impliqua dans une œuvre caritative locale qui lui fit comprendre qu'elle devait s'occuper d'elle en premier lieu avant de pouvoir donner aux autres pour de bonnes raisons. Autant d'échecs pas franchement glorifiants. Elle traversa une période de peu d'estime, craignant d'être superficielle, et une de ses filles qu'elle avait tant critiquées, qui mettait quantité d'énergie à entretenir leur physique et leur bien-être plutôt que de trouver le point d'équilibre entre soi et les autres. Zoé se demanda juste si elle n'était pas, en réalité, devenue une grosse conne. C'est dans une papeterie que la suite s'enclencha. Elle y alla pour acheter un organiseur familial effaçable à aimanter sur le frigo. Il y avait trop de rendez-vous auxquels elle et Romy devaient se rendre et elles avaient besoin d'y voir un peu plus clair. Lorsque Zoé tomba sur ce carnet, à la couverture imitant les vieux livres reliés en cuir. Ses doigts glissèrent dessus. Puis elle y revint pour l'ouvrir, sans bien savoir pourquoi, encore moins l'usage qu'elle pourrait en avoir. Caresser le vélin de ses feuilles lui donna la chair de poule. Le soir même, sur le plan de travail de la cuisine, elle écrivait dedans la première page de ce qui deviendrait un roman. Sans savoir où elle allait, Zoé déversa son imagination, son plaisir, et les mots s'emboîtèrent. Au début, il y eut énormément de ratures, mais ça ne la dérangeait pas. Elles étaient les hoquets de son esprit. Et comme sa grand-mère le lui répétait, « C'est rien, ma fille, le hoquet, c'est un organisme qui travaille !» Elle aimait ça, que son esprit travaille. Zoé n'avait jamais véritablement écrit. Elle n'y avait jamais songé, à vrai dire. Mais tant et tant de lectures avaient imprégné leur marque dans sa façon de formuler sa pensée, dans l'expression de sa création, que les phrases coulaient. Elle ne mit que les 9 mois d'une grossesse normale pour aller au terme de son livre. 9 mois et 3 carnets exactement. Romy fut la première lectrice, et c'est elle qui la poussa à envoyer son livre à un éditeur. Zoé hésita 1 mois, et en mit 1 de plus pour tout retranscrire sur ordinateur, ce qui lui laissa le temps de trouver des noms et des adresses. Elle expédia son tapuscrit à 6 maisons d'édition, en format papier, ce que lui reprochait sa fille. Ce n'était franchement pas très écologique, alors qu'elle pouvait très bien le faire par email. Zoé rétorqua que les mails aussi pompaient des ressources naturelles, et que pour quelqu'un qui prétendait à l'impression de milliers de pages potentielles en arbre mort, si elle commençait sur cette voie, il était préférable qu'elle ne soit pas éditée. Elles ne furent pas d'accord, et les éditeurs la contactèrent d'ailleurs par email. Les 3 premiers répondirent avant l'été suivant. Il ne fallait pas être pressé. « C'est très bien, mais non merci. » Mail de merde, les appela Zoé. Et de temps en temps, Romy lui demandait si elle avait reçu un nouveau mail de merde, mais non, rien ne venait. Il fallait croire que ce qui habitait sa tête n'intéressait pas. Et Zoé s'était fait une raison. Elle avait adoré écrire, mais n'avait pas le talent pour publier. Et ça n'était pas grave en soi. Rien ne l'empêchait de continuer, pour elle et pour sa fille. Jusqu'à ce que Romy se lasse de la lire. Zoé poursuivrait alors, rien que pour son petit plaisir à elle. L'écriture était, à bien y réfléchir, un onanisme intellectuel, et donc un acte de jouissance personnelle auquel on conviait les autres. Si personne ne voulait y participer avec elle, eh bien tant pis. Cette image bancale, d'autant que son unique lectrice était sa fille, la mit très mal à l'aise et la conforta dans l'idée qu'elle n'était pas faite pour ça. Un nouveau mail de merde tomba pendant les vacances de la Toussaint, soit 8 mois après l'envoi du texte. Et la bonne nouvelle, non sans ironie, le jour de la fête des morts. En fait, le courrier échoua dans sa boîte la veille, mais Zoé, nonchalamment, déjà déçue d'imaginer la réponse similaire aux précédentes, ne l'ouvrit que le 1er novembre. L'éditeur était d'un enthousiasme galvanisant. Non seulement il avait adoré, mais était convaincu qu'il pouvait en vendre beaucoup. Et il lui enjoignait de l'appeler sans délai, puisqu'il n'avait pas pu le faire. Zoé ne mettait jamais son numéro de téléphone. Elle trouvait cela vulgaire. Le mot « vendre » lui avait déplu. Le fruit de son âme n'était pas un produit de consommation. Elle constata bien vite qu'elle avait tort. Le roman n'était même pas encore paru que l'éditeur lui demanda ce qu'elle avait en réserve et quand il pourrait lire autre chose. Zoé réalisa alors qu'il était temps de se poser la vraie question, celle qui les rassemblait toutes. Que voulait-elle faire de son existence? Elle donna sa démission la même semaine. Le grand saut. Une folie. Financièrement, si la maison était payée, son entretien allait engloutir au fil des années ce qui restait de l'argent légué par Erwan. Zoé devait gagner sa vie, pour elle et pour Romy. Pourtant, elle n'eut pas peur. C'était le bon moment. Le roman fit un carton en librairie. Elle ne récupéra qu'un petit pourcentage de prix de vente, ensuite les impôts lui en prirent plus de la moitié, mais ça lui convenait très bien ainsi. C'était déjà presque de l'argent volé, du genre qu'on ne mérite pas. Là où la plupart des gens triment comme des bêtes pour des salaires dérisoires, elle toucha une somme importante pour avoir pris du plaisir à faire le job. Et c'était pour ainsi dire une honte. Zoé Margot, elle avait publié sous son nom de jeune fille, était célébrée pour la psychologie tout en dentelle de ses personnages. Et une critique parue dans Le Monde l'avait éminemment flattée, au point qu'elle la découpa pour la conserver. Zoé Margot dresse des portraits en trois phrases qui nous paraissent des vies entières et brillent dans les interactions humaines. Son art, ce sont les sentiments, et avec elle, la littérature acquiert la même légèreté et pourtant si précieuse portée qu'une sagace discussion entre amis. Cet article-là avait nourri son égo pour des années, même s'il gisait à présent dans un tiroir. Le pari de tout plaquer était plus que réussi. Elle avait quitté un métier alimentaire pour vivre d'un acte qu'elle aimait profondément. Le deuxième livre est toujours le plus difficile, surtout quand le premier est un succès. Peur de ne plus y arriver, de décevoir, de forcément faire moins bien, et presque sans surprise, c'est ce qui se produisit. Zoé était partie de trop haut pour espérer se maintenir. Les critiques furent tièdes, le public moins présent, et les ventes divisées par deux, ce qui restait beaucoup, mais à ce rythme-là, Zoé estimait qu'elle aurait disparu des radars d'ici deux ou trois romans, soit à peu près rien dans une vie de romancière, en particulier lorsque celle-ci débute à peine. Du triomphe euphorique à l'angoisse créative. Une banalité toute littéraire. Zoé travaillait sur son troisième livre lorsque la tempête avait retourné le nord de la France, en avril. Jusqu'à l'été, elle avait fait comme beaucoup. Elle s'était focalisée sur la reconstruction, mettant son manuscrit de côté. La maison avait peu souffert, mais le jardin était dévasté, ce qui n'était rien en comparaison du sort d'autres voisins. Zoé et Romy décidèrent d'offrir leur énergie là où elle serait véritablement utile, et elles s'engagèrent auprès du pôle d'urgence local, installé à la mairie du Vésinet. Elles s'occupèrent entre autres du recensement des besoins en eau potable, puis en électricité, aidèrent à l'inventaire hebdomadaire des réserves de nourriture qu'il fallait ensuite distribuer, avec les trousses de première nécessité. Puis, il fallut remplir les interminables questionnaires que les autorités envoyaient pour estimer les besoins immédiats, notamment financiers. Et pour cela, il fallait recevoir longuement chaque personne qui demandait une forme d'assistance et faire valider chaque cas par la mairie. Pour finir, Romy passa deux mois de bénévolat pour les écoles élémentaires du Vésinet, l'idée étant qu'elles soient non seulement reconstruites avant la rentrée, mais surtout décorées avec des fresques qui aideraient à atténuer les cicatrices du traumatisme, tandis que Zoé servait de repas à la banque alimentaire du centre-ville. Zoé, comme Romy, n'avait pas d'obligation professionnelle directe. Contrairement à beaucoup d'autres. Elles n'avaient pas tout perdu dans la tempête, et elles s'efforcèrent d'être le plus utile possible à la communauté. Compte tenu de la chance qu'elles avaient, elles estimaient que c'était une évidence et s'employèrent à n'en dégager aucune fierté déplacée. En août, l'essentiel était réglé. À présent, il fallait des moyens et des compétences très ciblées. Les deux femmes n'étaient plus aussi utiles, alors elles se recentrèrent sur leur propre vie. Bien sûr, Zoé n'avait pas beaucoup avancé sur son roman depuis le printemps. Trop de choses lui passaient par la tête. Elle n'arrivait pas à écrire si son esprit n'était pas parfaitement clair, libéré des préoccupations matérielles. Mais il était temps de s'y mettre. Son dernier bébé était sorti 13 mois auparavant. Et au rythme où elle avançait, le suivant arriverait 2 ans plus tard, et encore, à condition de le terminer. Le palier grinça dans le dos de Zoé. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour deviner que c'était René qui venait la rejoindre. Le Golden détestait rester seul trop longtemps, même pour dormir. Il alla s'allonger au pied du sofa, sur l'épaisse moquette blanche, et soupira. Il attendit bien 30 secondes et soupira encore. Pas très subtil. « Ça va, oui, je vais te sortir. Dis donc, tu pourrais être compatissant et me laisser bosser aussi. » Zoé fixait la page blanche sur l'écran de l'ordinateur. Elle leva les yeux vers les fenêtres du bow window. La cime des arbres luisait sous le soleil de mi-octobre. Sous cette nature si paisible en surface, Zoé le savait. Il y avait encore les stigmates de sa dernière colère. Elle pivota vers René, qui la fixait de ses yeux noirs. « Bon, tu vas aller te balader ?» Les oreilles reculèrent sur le crâne poilu. « C'est parce que je t'aime, hein ?» Mais au fond d'elle-même, Zoé était lucide. C'était encore un prétexte pour ne pas écrire. Ne pas se confronter au doute.